On y revient sur ces questions de démolition parce que bien avant l'empreinte écologique, c'est qu'il y a quand même une empreinte sociale. Des personnes ont habité là pendant un certain nombre d'années et ont vécu. Et donc d'annihiler l'histoire de cette trace d'un passé, c'est assez violent.
Demain, l'espace public est un cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Chaque mois, des architectes, urbanistes, philosophes, artistes, anthropologues viennent échanger sur ce qui se fait déjà et sur ce qu'on pourrait imaginer demain pour rendre nos villes plus vivables, plus vivantes et plus vibrantes. Dans ce podcast, vous allez écouter Sophie Ricard, architecte urbaniste, coordinatrice de la Preuve par 7, qui milite pour une programmation urbaine inclusive et ouverte. Elle était invitée de la rencontre intitulée « Demain, généraliser un urbanisme vivrier ».
La Preuve par 7, c'est une démarche expérimentale accompagnée par le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Cohésion des territoires, le ministère de la Culture et la Fondation de France, qui promeut le droit à l'expérimentation en architecture, paysage et urbanisme sur le territoire national. Donc c'est une démarche portée par une association qui s'appelle Notre Atelier Commun, qu'a fondé Patrick Bouchain et son équipe et l'agence Construire à l'époque de la, du montage de la Friche Belle de Mai à Marseille, et qui aujourd'hui, on va dire, termine sa course, qui a beaucoup mis en œuvre de projets expérimentaux en architecture, puisque Patrick Bouchain et l'agence Construire se sont saisis de Notre Atelier Commun pour ne pas faire des projets de maîtrise d'œuvre classique, mais bien au contraire faire un espèce de laboratoire d'expérimentation et de recherche autour de projets atypiques en architecture qui mettent en œuvre ce qu'on peut appeler aujourd'hui des jurisprudences, ou en tout cas de nouvelles méthodologies en vue justement de rendre peut-être agile la commande publique, de travailler sur la reterritorialisation de la commande et de promouvoir un droit à l'expérimentation pour les maîtrises d'ouvrage, en associant à chaque fois un trio d'acteurs qui est fondamental pour faire ce qu'on appelle un urbanisme vivrier, qui est l'élu, le technicien et la société civile. La méthode Bouchain, c'est comment l'architecte peut redevenir le tiers acteur qui accompagne peut-être la rédaction de la commande, peut-être avec sa vision justement créatrice, peut détourner, retourner une situation qui serait complexe ou serait inaccessible ou impossible à régler. À un moment donné, cet architecte ou la méthode Bouchain, c'est de dire peut-être que si on regarde les choses différemment, si on fait un pas de côté, on peut retourner cette complexité en quelque chose de positif, en une valeur qui pourrait permettre de voir que le projet peut se faire autrement. Et donc Patrick Bouchain, effectivement, est connu d'abord pour la requalification du déjà là, c'est-à-dire que c'est un architecte qui a déjà dit « je ne veux pas construire du neuf, je ne veux pas construire sur un champ de patates sans histoire ». L'architecture a toujours une histoire, la façon d'habiter de l'homme a toujours une histoire dans son implantation, etc. Je veux repartir de cette histoire. On est dans un monde contemporain où peut-être il y a trop de richesses, il y a beaucoup de déjà là, un monde moderne, qui hérite d'énormément d'architecture et de patrimoine, pour des usages qui aujourd'hui sont peut-être obsolètes. Emparons-nous déjà de ces patrimoines ou de ces friches vacantes, ressaisissons-nous de cette architecture et saisissons la chance qu'on a d'avoir déjà ça pour réinventer à partir de nos usages peut-être d'autres façons d'habiter le territoire. Nous parlons d'urbanisme vivrier car comme on va dire une agriculture se dit vivrière car elle répond à un besoin de subsistance sur un territoire donné, elle est géographiquement située et elle ne promeut pas d'excédent dans la production. L'urbanisme vivrier doit aussi faire la preuve qu'il est en capacité de se construire sur lui-même à partir du déjà là et en faisant surtout appel à l'économie locale, aux filières locales, aux ressources, donc comme je disais, matériel et immatériel d'un territoire, c'est-à-dire la population, les savoir-faire, les enseignements, les universités, les écoles, mais aussi le patrimoine dont on hérite, qui a une histoire et qui doit être en capacité de se réinventer face aux nouveaux usages et à la nouvelle façon d'habiter de notre territoire, qui doit faire face à des enjeux tels que la crise écologique et la crise sociale dont on hérite aujourd'hui en France. « pour intégrer la population afin qu'elle participe pleinement à l'écriture et la fabrique d'un projet urbain ou d'un projet architectural, on est obligé de mettre en œuvre ce qu'on appelle une permanence architecturale. Avec le savoir-faire d'un architecte qui sort de l'école, d'un architecte qui a envie de confronter en tout cas son savoir-faire théorique à un savoir-faire pratique d'application sur un territoire en local et qui aurait envie aussi d'habiter le site même du projet pour comprendre les problématiques et les besoins d'un territoire, mais aussi les besoins de sa population, et peut-être essayer d'agréger en tout cas tous ces besoins pour répondre au plus juste de la commande et favoriser effectivement une réponse programmatique qui va tout d'un coup servir réellement au quotidien le besoin d'un territoire. Et l'architecte en permanence va en plus favoriser ce qu'on appelle la programmation ouverte, c'est-à-dire va pouvoir mettre à l'épreuve nos patrimoines abandonnés ou nos friches abandonnées par l'usage des citoyens, des services, des collectivités qui auraient des besoins pour tester des choses, tester des occupations, et en testant, s'approprier un espace, lui redonner une valeur à la fois symbolique et une valeur d'usage, pour favoriser un programme qui répondra plus justement aux besoins de demain. L'UNEL, par exemple, c'est la SNCF qui est le maître d'ouvrage très SNCF Immobilier volontariste pour mettre à disposition l'ancienne gare de l'UNEL, à disposition d'une programmation ouverte et d'un projet d'intérêt général pour la collectivité. On a d'autres sujets, d'autres projets en France où c'est les maires qui sont à la barre vraiment de la commande et qui, par une prise de risque, puisque c'est une prise de risque de mettre à disposition un patrimoine vacant à destination de la collectivité alors qu'il n'est pas encore réhabilité, qu'il n'est pas encore aux normes pour accueillir du public. On n'a plus le choix, il faut réhabiter, on a des problématiques de logement, on a des problématiques d'équipement qui ne fonctionnent plus, on a des problématiques d'usage qui se sont transformées mais dont on a des équipements qui ne répondent plus à ces besoins-là, etc. etc. On a des problématiques de requalification de nos patrimoines et surtout de réhabilitation, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il va falloir arrêter de détruire et de démolir et qu'il faut réparer, réhabiliter juste pour une question d'empreinte écologique avant même la question sociale qui pour moi est la plus fondamentale, c'est la question sociale. Là aujourd'hui on parle d'empreinte écologique, sauf que bien avant ça, il y a la question sociale qui pour moi est dramatique, notamment dans les opérations de grands ensembles de renouvellement urbain où au point de départ, l'Agence pour le renouvellement urbain prévoyait plutôt de démolir et on se rend bien compte aujourd'hui qu'on y revient sur ces questions de démolition parce que bien avant l'empreinte écologique, c'est qu'il y a quand même une empreinte sociale. Des personnes ont habité là pendant un certain nombre d'années et ont vécu. Et donc d'annihiler l'histoire de cette trace d'un passé, c'est assez violent. On sait bien qu'on n'a aujourd'hui pas réglé la question avec la démolition. C'est-à-dire que, évidemment, la réponse à l'Agence pour le renouvellement urbain, la réponse à la réparation des quartiers prioritaires n'est pas la démolition. Et on le sait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on construit déjà moins, donc moins faible densité, qu'on diffuse comme ça des populations sur le territoire alors qu'elles sont peut-être attachées à leur école, à leur quartier, à leurs loisirs, à leur travail, parce qu'elles ont vécu quand même sur ce territoire. Qu'il faut faire de la couture, c'est de la dentelle une opération de renouvellement urbain et de réaménagement. C'est être sur le temps long, c'est avoir des urbanistes très forts qui travaillent main dans la main avec l'élu, avec les privés, parce qu'il y a aussi l'empreinte foncière, avec les promoteurs immobiliers aussi qui vont construire derrière. Et c'est faire de la couture urbaine et c'est travailler avec les populations. Faire confiance aussi aux populations des quartiers où il y a une formidable diversité culturelle qui est une richesse pour ces quartiers-là et pour ces collectivités.
C'était Sophie Ricard, architecte urbaniste, invitée de Demain l'espace public, cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Sur le même sujet, nous vous suggérons d'écouter l'entretien que nous avons réalisé avec Kelsan Gravache, directeur artistique du Temple Caché, un studio de création installé dans l'ancienne gare de l'UNEL. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier, capitale européenne de la culture 2028.